La dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Ne partez pas tout de suite, Antoine Mercier. Nous avons choisi pour cette dernière partie, toujours dans le cadre de cette journée spéciale de France Culture, qui pose la question de comment retrouver le désir de politique à un an de la présidentielle. Nous avons souhaité prendre un peu de recul pour observer les choses depuis un pays voisin, l'Italie, et chercher peut-être un nouvel espoir dans la voie européenne. Voilà pourquoi nous avons invité Sandro Gozzi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Membre fondateur du Parti démocrate italien, qui est au pouvoir aujourd'hui, secrétaire d'État chargé des affaires européennes auprès du président du Conseil des ministres italien Matteo Renzi. Vous publiez, Sandro Gozzi, Génération Erasmus, sous-titre « Ils sont déjà au pouvoir ». En fait, le « ils » c'est vous, nous sommes déjà au pouvoir, ça devrait s'appeler, un livre qui vient de paraître chez Plon. C'est également chez Plon qu'a paru le livre de la personne que nous avons invitée pour dialoguer avec vous, Sandro Gozzi, parce que dans cette dernière partie, nous avons toujours un dialogue entre un invité et une deuxième personne. Aujourd'hui, c'est Maëlle de Calan. Bonjour.
Bonjour.
Maëlle de Calan est en quelque sorte le miroir français de cette question du rapport à la politique que nous allons poser aujourd'hui. Maëlle de Calan, vous êtes président de la Fédération Les Républicains du Finistère, conseiller départemental, fondateur du think tank La Boîte à Idées et maître de conférences à Sciences Po. Et ce livre qui a paru chez Plon, donc, est la vérité sur le programme du Front National que vous êtes venu présenter dans le journal la semaine dernière. Et il se trouve que nous sommes pour cette journée en partenariat avec le journal La Croix et que Antoine Mercier a confraternellement cédé sa place à François Hernenwein qui est donc resté avec nous pour interroger à mes côtés nos invités. Aujourd'hui, François Hernenwein est rédacteur en chef de La Croix. Bienvenue.
Bonjour.
À vous. Je voudrais donc partir avec vous, Sandro Gozzi, sur cette idée qu'en France, en tout cas, nous faisons le constat d'une crise de la démocratie représentative. Un constat qui est largement partagé aussi bien par les couches de la société jeune que nous avons étudié en première partie, par également un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, de chercheurs que nous invitons régulièrement autour de cette grande table, partagé aussi par un certain nombre d'élus. Je citais en première partie cet entretien du secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche Thierry Mandon qui dit « Notre système est à bout de souffle, il faut que l'élection présidentielle qui arrive soit le moment de débattre des changements démocratiques qui s'imposent ». Le journal La Croix a lancé une vaste enquête sur ce désir de politique des Français et ses résultats de l'enquête sont plutôt surprenants, montrent un vrai désir de politique, une passion contrariée en quelque sorte. Qu'en est-il en Italie? Est-ce que vous partagez cette crise de la démocratie représentative et en même temps un formidable appétit de la part de la société civile?
Ah bien sûr, les problèmes de la crise représentative sont, je dirais, communs à toute l'Europe et peut-être même au-delà de l'Europe. Si on doit voir ce qui se passe aux États-Unis, on voit aussi là-bas pas mal de changements en partie inattendus. Et la question s'est bien posée de votre part. Ce n'est pas les gens qui ne s'intéressent plus à la politique. Il y a un désir de politique, c'est un problème plus que d'offres que de demandes. Alors, si c'est un problème plus d'offres que de demandes, il faut travailler sur l'offre, il faut essayer de faire la politique autrement. C'est ce que nous avons essayé de faire, nous sommes en train d'essayer de faire, en ayant créé les partis démocrates, en travaillant sous...
En 2007.
En travaillant sous de nouveaux instruments des participations, voir par exemple le thème des primaires, mais moi je crois qu'on devrait faire beaucoup plus à travers la consultation de nos militants, de nos électeurs, de nos citoyens, en introduisant tous les outils du numérique dans la démocratie. Je crois que c'est un instrument très important, mais surtout la question c'est en donnant les bonnes réponses aux grands thèmes d'inquiétude des citoyens. C'est ça la vraie réponse pour relancer la politique. Et les bonnes réponses au thème du manque de croissance, les bonnes réponses à la plaie du chômage, les bonnes réponses à la question de l'immigration, les bonnes réponses à la question de la sécurité. Et c'est comme ça qu'on récupère la bonne crédibilité. Sans doute, c'est si en parallèle à un travail de réforme. En Italie, nous aurons un référendum très important, décisif pour nous et important pour les pays en octobre avec la réforme constitutionnelle. Nous pensons qu'une démocratie doit se renouveler, doit réformer ses institutions. Et pour nous, c'est une mise à jour très importante que nous allons proposer aux Italiens de faire avec un référendum sur la Constitution. Donc je crois que la réponse, c'est en trois parties. finalement voir comment reprendre les dialogues avec les citoyens, avec de nouveaux moyens, donner les bonnes réponses au sujet d'inquiétude et mettre à jour, moderniser nos institutions.
Maëlle de Calan, en tant que nouvelle génération, hein, vous avez 36 ans vous-même, est-ce que ce que dit Sandro Gozzi, vous le retrouvez-vous au sein de ces jeunes comme vous qui s'engagent en politique? Est-ce que vous avez un désir autre de politique en reprenant les trois solutions ou les trois propositions de Sandro Gozzi?
Alors j'adhère complètement à l'idée qu'il y a une crise de l'offre politique. À l'idée que la classe politique prise dans son ensemble a vu sa parole se vider de son sens, a transmis une sorte de désespérance dans l'action politique à force d'échouer, à résoudre ce que vous appelez les problèmes des gens. On peut mettre beaucoup de choses derrière cette idée des problèmes des gens, ça dépend des pays, ça dépend des contextes, mais j'adhère complètement à l'idée que la crise de l'offre, c'est à la fois une crise du comportement politique et une crise des résultats. On ne croit plus dans la politique, elle ne sert plus à rien, parce qu'elle est manifestement incapable d'améliorer la vie des gens. Donc j'adhère complètement au diagnostic. Des trois leviers que vous avez indiqués, celui qui me paraît déterminant, si on adhère à ce diagnostic, c'est surtout le second. C'est donner des résultats, que la politique serve à quelque chose. Et ce que je constate, probablement parce que c'est la solution de facilité, c'est que la plupart des gens qui s'interrogent sur cette crise du politique offrent comme solution, vous citiez Thierry Mandon, tous ceux qui disent voilà, il faut tout changer, il faut qu'on fasse de la politique très différemment. Ils disent jamais d'ailleurs en général ce que signifie ce très différemment. Ils parlent d'horizontalité, enfin sans donner d'exemples très précis. Et cette volonté, en quelque sorte, de résumer la crise politique à, plutôt de la faire aboutir à une solution assez simple qui consisterait à changer la classe politique, ce qu'on appelle le fresh start. Vous utilisez d'ailleurs l'expression dans votre livre, me semble pas la plus intéressante. C'est-à-dire ce que j'ai bien aimé dans votre livre, après on va en parler plus en détail, mais c'est justement tout l'aspect sur la politique qui délivre des résultats, les réformes qu'on met en œuvre, la capacité dans un environnement devenu très complexe à montrer que les choix démocratiques emporte des conséquences, et il me semble que c'est le cœur de la solution est beaucoup plus intéressant que tout ce qui est autour, qui est plus facile, qui est aussi peut-être plus plaisant en termes de nouveaux visages, de nouvelles manières de faire de la politique. Moi, ce qui m'intéresse plus chez Renzi, ce sont effectivement la réforme constitutionnelle que vous portez, c'est la réforme du marché du travail, c'est des choses qui sont capables de transformer l'Italie plus que le côté assez juvénile, assez rafraîchissant, les keynotes qui ressemble un peu à celle de Steve de Jobs. Et voilà, dans cette nouvelle manière de faire de la politique, il y a le fond et la forme. Et moi, ce qui me plaît chez vous et dans votre livre et dans la démarche qui est celle de Renzi, c'est plus le fond que la forme.
Peut-être les deux. Parfois, les deux vont ensemble. Parfois, c'est difficile de faire du nouveau fond sans une nouvelle forme.
La forme, c'est du fond qui remonte.
Moi, je suis convaincu qu'on n'aurait pas pu passer les réformes qu'on a passées en Italie si on avait avant aussi pas fait un renouveau en profondeur de la classe qui dirige les pays.
C'est pour cette raison que vous avez été l'un des fondateurs du Parti démocrate. Rappelez-nous dans quel contexte s'est créé ce parti.
C'est pour cette raison qu'on a créé les partis démocrates du moment où c'était clair que les divisions, les clivages entre les différents partis plus ou moins grands, aux petits, des centres, des gauches, étaient complètement dépassés par la réalité. Qu'il fallait organiser une nouvelle offre politique, qu'il fallait rassembler autour d'un nouveau projet pour les pays et pour l'Europe les différentes forces qui partageaient des valeurs mais qui étaient éparpillées dans différents groupuscules. Et sans doute, les partis démocrates s'est présenté comme un pays pour le renouveau du pays. Le problème, c'est que, on a, au début, au départ, on était tombé dans le piège qui est fréquent en Italie. Un piège dans lequel on change beaucoup, très souvent, les symboles des partis, mais les dirigeants restent toujours les mêmes. On pensait que pour véritablement changer leur politique, il fallait aussi changer les dirigeants. Et c'était ça le défi de la primaire qu'on a fait, qui a amené Matteo Renzi, secrétaire du parti. Et après, c'est avec la même logique qui lui a formé son gouvernement.
Mais il y a la même réflexion en Italie sur le déclin ou la crise aussi des partis politiques traditionnels.
Absolument.
En France, on discute beaucoup de ça. Il y a des prises de position extrêmement divergentes, bien sûr. Certains pensent qu'il faut continuer de faire de la politique au sein même des partis traditionnels. D'autres, au contraire, pensent que justement les partis traditionnels, politiques traditionnels, n'ont plus lieu d'être dans ce monde. Qu'en pensez-vous, Sandro Gozzi?
C'était exactement les mêmes débats qu'on a eu et qui étaient à l'origine du Parti démocrate. Et c'est pour cela qu'il faut aussi travailler sur les propositions politiques concrètes, en sachant que les clivages ne sont pas ceux qui étaient autrefois. Il y a des nouveaux clivages et à l'intérieur desquels s'insèrent les nouveaux populismes. Il y a des clivages intergénérationnels, il y a des clivages économiques, il y a des clivages autour de l'Europe, il y a des clivages autour de la sécurité. Ce sont des nouveaux clivages. Donc il fallait forcément construire des nouveaux partis politiques avec de nouvelles propositions. Mais aussi, la question de la méthode n'est pas secondaire. Elle doit suivre les idées. Ce n'est pas parce que j'entendais ces mouvements Ma Voix qui m'a rappelé beaucoup les mouvements 5 étoiles dans lesquels il y a un porte-parole qui doit aller sur la toile, sur les réseaux, voir ce qu'ils disent. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est l'assomption des responsabilités aussi. Et la politique, ce n'est pas seulement se décharger de toute responsabilité en s'adressant aux réseaux sociaux. Mais la révolution du numérique et les nouvelles méthodes des participations démocratiques, voire les primaires, pour choisir un candidat à la présidentielle, par exemple en France, ce sont une partie de la réponse. Parce que les citoyens doivent être impliqués beaucoup plus sur les choix fondamentaux des partis. Et d'après nous, ils doivent être impliqués pas seulement sur les choix des femmes ou des hommes qui vont les représenter, mais aussi sur les grands choix, thèmes fondamentaux, sur les grandes réformes. Et là, on avait prévu dans les partis démocrates une implication, une consultation des électeurs et des militants qu'on a mis en œuvre seulement en partie. Et je crois que ça, c'est une partie du boulot qu'on a devant nous.
Vous disiez, Sandro Gozzi, que vous aviez éprouvé le besoin de renouveler la classe dirigeante, de changer de personnel politique. Que pensez-vous, d'ailleurs, l'un et l'autre, en France comme en Italie, que pensez-vous du fait que des inconnus soit en passe ou parfois remporte des élections assez rapidement. Je pense à Donald Trump qui n'est pas encore élu mais qui monte extrêmement vite. Je pense bien sûr à Pablo Iglesias du mouvement Podemos, mais on pourrait en citer plusieurs. On pourrait même citer dans votre pays, Sandro Gozzi, Virginia Raggi qui est la candidate du mouvement 5 étoiles, qui part favorite pour les élections municipales du 5 juin prochain à Rome. Elle a 37 ans et jusqu'il y a encore quelques mois elle était inconnue. Comment regardez-vous l'émergence assez rapide de personnel qui pourrait reprendre la politique?
Mais d'après moi, il s'insère justement sur un double problème. Le premier problème, c'est la difficulté des partis politiques, soi-disant traditionnels, plus installés, plus institutionnels, je ne sais pas comment les définir, de donner les bonnes réponses concrètes aux grands thèmes, aux grands sujets d'inquiétude des citoyens. Et donc, il est clair que là, il y a toujours la possibilité de s'insérer avec des solutions qui parfois sont simplistes, parfois sont irréalistes, mais qui passent très bien parmi les gens. Et ça, c'est une des recettes de tout mouvement populiste, en fait. Et de l'autre côté, c'est les besoins, justement, des citoyens de participer et d'avoir de participer à la politique. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas seulement un déplacement vers l'abstentionnisme, mais il y a aussi une adhésion à des nouveaux mouvements qui nous disent « Nous allons résoudre vos problèmes. Avec nous, vous allez vraiment compter. Avec vous, chacune de votre voix, ça sera la voix décisive. » Et c'est un message qui passe bien. Et d'ailleurs, en Italie, les mouvements 5 étoiles, dont Virginia Raggi est une représentante, est passé de 0 à 25%. Et je crois que si nous avions réorganisé leur politique, réorganisé les partis démocrates, et s'il n'y avait pas eu Matteo Renzi aux élections européennes, les mouvements 5 étoiles auraient été les premiers partis en Italie.
Mal décalant sur cette question.
Je pense que c'est le signe d'un dérèglement de la vie démocratique dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que c'est D'abord, c'est un mouvement que je juge à la fois inquiétant, dangereux. Non pas le fait qu'on puisse passer de l'inconnu à la notoriété, ça c'est très positif. Les partis politiques n'ont pas vocation à être des organisations fermées, stratifiées, dans lesquelles on ne peut émerger qu'au bout de 30 années. En revanche, quand vous aspirez à diriger une ville de la taille de Rome, une région, un pays, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut avoir conscience de la complexité que ça implique. Donc je pense que c'est le signe d'un dérèglement qui est extrêmement dangereux. Alors comment l'éviter? Je pense que c'est exactement la manière que Sandro Gozzi vient de décrire, c'est-à-dire faire en sorte que les partis de gouvernement qui sont de vieilles dames, mais probablement essentiels à la structuration du débat politique dans une démocratie représentative, soient suffisamment ouverts, déjà dans leur fonctionnement, le fait qu'ils se renouvellent, le fait que l'EVP et le SPE se soient fait balayer en Autriche, c'est avant tout ça, c'est l'incapacité de ces partis à mettre de la transversalité, ce que vous avez brillamment réussi à faire au Parti démocrate, ce qu'il nous faut faire, nous, dans nos partis en France, d'une part, et d'autre part, faire en sorte qu'à chaque étage, en quelque sorte, de la fusée respire, communique avec l'extérieur, mais... au travers de la co-construction des projets, au travers de formes d'ouverture, mais en revanche, probablement pas au travers d'une espèce d'idéal de démocratie qui se substituerait, démocratie directe, qui se substituerait à la démocratie représentative.
Mais une question de François Hernenbein.
Vos réponses, excusez-moi de ce jugement de valeur, ressemblent à des figures de rhétorique qu'on entend depuis 10-15 ans dans tous les débats sur ces questions-là. Ce qui se passe aujourd'hui en France et sans doute en Italie, c'est vrai, c'est face au blocage politique. Il y a une formidable capacité des citoyens à la base, dans différents mouvements, les colibris, etc., à inventer des formes nouvelles pour résister aux effets de la crise, pour sortir dans les parties rurales abandonnées hors des grandes métropoles, inventer des initiatives, être créatives. Et effectivement, ça se déploie, c'est souvent affinitaire. Mais traditionnellement, enfin historiquement ces dernières années, toutes ces initiatives ont énormément de mal à passer le plafond de verre des partis politiques. Les partis politiques, quand leur offre politique, quand l'origine de la créativité n'est pas chez eux, il y a une sorte de méfiance sur toutes les initiatives de la société civile. Et c'est, en Italie, le problème s'est résolu avec les percées populistes, d'une certaine façon. Et ça, c'est la conséquence politique de cette absence d'écoute des grandes formations politiques. Et partout, notre enquête le montre assez bien, c'est une crise, non pas de la politique, du désir des gens de s'impliquer, mais véritablement une crise de la représentation politique. Et là, je pense pas que vous soyez allé au bout de la réflexion pour changer les choses.
Le décalage entre le rêve de démocratie et la réalité. Maëlle Calland.
Ce serait de la rhétorique, ce que je dis, oiseuse et convenue, si je ne cherchais pas, au sein de ma formation, depuis plusieurs années, justement, à l'ouvrir le plus largement possible, y compris à des idées qui ne viennent pas des partis politiques. Ouais, j'ai fait le constat avec d'autres, dans ma génération, que la droite républicaine était en train de se scléroser au plan idéologique et qu'il fallait, effectivement, en déployant des antennes, notamment dans tout le monde économique, nourrir notre réflexion. Mais c'est une question d'ailleurs qu'on pourrait poser à Sandro Gozzi. C'est est-ce que le Parti des démocrates en Italie a réussi, au-delà du renouvellement de ses cadres, à s'ouvrir aux idées qui émanaient du monde universitaire, des think tanks, des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, un modèle du Parti démocrate qu'il nous faudrait dupliquer en France?
Sandro Gozzi.
Nous avons sans doute essayé de nous adresser à tout le pays. Donc, dès le départ, on n'a jamais dit « nous avons nos gens et ceci, ce sont les électeurs aux autres ». Et les premières ruptures du Parti démocrate avec les passés même récents, c'est lui la volonté de s'adresser à tous les pays, même avec une perspective et des valeurs qui sont c'est du centre-gauche. Est-ce qu'on a réussi? Si je dois regarder les résultats aux élections européennes, je dirais que oui. 41% et un nouveau électorat. Maintenant, quelle est la question que nous avons en face? c'est de gérer des cercles qui sont superposés mais ne sont pas pleinement coïncidents. Vous avez les cercles des militants du Parti démocrate, qui en général ce sont des militants aussi, en partie des partis qui ont fondé les partis démocrates, en partie sont nouveaux. Après, vous avez un autre cercle, que je dirais que c'est des 4 millions de personnes, qui sont les citoyens qui n'ont pas la carte du Parti démocrate, mais qui se déplacent aux primaires, à chaque fois qu'on fait des primaires, pour choisir les candidats à la mairie, pour choisir les candidats à la présidence du conseil, ils se déplacent. Et après, vous avez un troisième cercle, c'est que des électeurs qui, pour la première fois aux élections européennes, ont voté Parti démocrate, parfois des électeurs qui étaient même de Berlusconi avant. Et la question, c'est comment garder ces trois cercles et comment organiser aussi une vie du parti qui puisse poursuivre les dialogues avec ces trois cercles différents.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Dans le cadre de cette journée de France Culture, comment retrouver le désir de politique et en partenariat avec le journal La Croix? Nous recevons aujourd'hui Sandro Gozzi, qui est membre fondateur du Parti démocrate italien, qui est secrétaire d'État chargé des affaires européennes auprès du président du Conseil des ministres italien, Matteo Renzi, qui publie Génération Erasmus. Ils sont déjà au pouvoir chez Plon. Et pour dialoguer avec lui, Maël de Calan, qui préside la Fédération Les Républicains du Finistère, qui est conseiller départemental, fondateur du think tank La Boîte à idées et maître de conférence à Sciences Po, auteur de La vérité sur le programme du Front National. Et autour de la table pour interroger ces deux invités, François Hernenwein, qui est le rédacteur en chef du journal La Croix. Venons-en, si vous le voulez bien, Sandro Gozzi, à cette question de la génération Erasmus qui est au cœur de votre ouvrage. Génération Erasmus, c'est qui exactement?
Dans les livres, ce sont les premiers, ce sont des pionniers de ces programmes Erasmus, des gens comme moi qui ont fait les programmes Erasmus un mois, deux mois après la chute du mur de Berlin. Et après, donc nous sommes vraiment la toute première génération et qui a des expériences similaires. Des gens qui ont vécu sur leur peau, en positif, l'expérience européenne. Des gens qui ont véritablement vécu des Européens qui ont vécu en tant qu'Européens grâce à l'Europe, grâce aux opportunités que l'Europe a multipliées comme les programmes Erasmus et qui maintenant commencent à être aussi au gouvernement. Et donc j'ai fait référence aussi à certains de mes collègues que j'ai croisés auparavant au Collège d'Europe de Bruges, dans le programme Erasmus, dans d'autres programmes de mobilité. Quelle est la différence? Ce n'est pas seulement une question générationnelle, on est plus jeune, donc on est forcément meilleur, plus beau, plus... Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a eu un écart entre, disons, les pères fondateurs et la génération qui a suivi en Europe. Les pères fondateurs, des gens même qui ne sont pas vraiment des pères fondateurs, mais comme Kohl, Mitterrand, et ce sont des gens qui ont vécu l'Europe sans union. Ils savent bien, parce qu'ils l'ont vu avec leurs yeux, c'est que c'était notre continent sans union européenne. C'était un continent qui a inventé la Shoah, c'était un continent où on dit nazi ou fasciste, mais finalement c'était des Italiens ou des Allemands qui envoyaient les Juifs dans les camps de concentration. C'était un continent qui a inventé deux guerres civiles avec des millions de morts entre l'Italie, l'Autriche, la France et l'Allemagne dans le XXe siècle. Donc ils savaient bien ce que c'était l'Europe sans Union européenne. Et nous sommes une génération qui sait bien ce que c'est l'Europe pour les biens, pour les opportunités qui a multiplié. Entre la première génération et cette génération, il y a eu des dirigeants européens pour lesquels l'Europe, c'était une option parmi les autres. Donc, on pouvait être pour la construction européenne les lundis, mais si les sondages les mardis allaient mal, on était très distant, tiède, vis-à-vis de la construction européenne. Et ça, c'était une faute majeure. C'est pas parce que je crois que le débat aujourd'hui doit être plus d'Europe, moins d'Europe. Il est obsolète ce débat. Le débat plus d'Europe, moins d'Europe est totalement obsolète. La question, c'est que nous avons des questions qu'on peut adresser seulement au bon niveau. On peut les adresser seulement au niveau européen, au moins. Et alors, au niveau européen, il faut construire des politiques transnationales, des gauches ou des droites, qui s'affrontent et qui, sur les bons terrains, développent des politiques alternatives. Et c'est ça, et je suis convaincu que seulement des dirigeants qui sont pleinement conscients de ce que c'est l'Europe représente aujourd'hui, qui sont pleinement conscients de ce que l'Europe peut multiplier en tant qu'opportunité, qui peuvent développer une nouvelle politique et peuvent aussi augmenter la prise de conscience des gens, parce qu'aujourd'hui, Il y a des millions et des millions de citoyens qui vivent en tant qu'Européens, mais ils ne le savent même pas.
Le renouveau de la politique passerait-elle par l'Europe, Maël de Calan ?
Probablement oui. Probablement que dans une vision un peu plus pragmatique, dans laquelle on se demande effectivement non plus si l'Europe est, le sens de l'histoire européenne ou non, mais simplement, enfin, ou en plus, hein, la seule manière de résoudre des problèmes d'envergure mondiale qui se posent aux nations européennes, probablement oui. Mais je me demandais, moi, si cette génération Erasmus, qui est effectivement la génération qui arrive au pouvoir ou qui est au pouvoir depuis 5 ou 6 ans, c'était pas aussi une génération qui avait un peu idéalisé le monde dans lequel elle vivait. Vous parlez vous-même dans votre livre, Sandro Gozzi, de réveil brutal. Vous dites qu'après avoir vu la chute du mur de Berlin, les années 2000 qui étaient en réalité, enfin, au final, assez florissantes, le continent européen vivait sur la lancée de l'union économique et monétaire. Et est-ce que la génération Erasmus, la vôtre, n'a pas oublié que l'histoire était tragique, que l'histoire était compliquée, que l'Europe n'était pas seulement un rêve, mais aussi une nécessité presque vitale pour le continent européen soumis au grand vent de la mondialisation. Est-ce que votre génération n'a pas été, d'une certaine manière, un peu naïve aussi ?
Sandro Gozzi.
Je crois que oui. Je crois qu'on a excédé par optimisme. Et c'était assez facile d'excéder par optimisme du moment où il y avait des choses tellement historiquement importantes comme la chute du mur et que tout semblait aller dans les bons sens. Expansion de la démocratie en Europe, croissance, révolution technologique, new economy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces mots qui aujourd'hui ça sonne très obsolète mais qui étaient vraiment la nouvelle croissance économique. Et donc, sans doute, il y a eu un excès d'optimisme et sans doute, il y a beaucoup parmi nous qui ont oublié que rien n'était réversible. Et même pas la construction européenne est irréversible et même pas la démocratie dans nos États est irréversible. Et donc, aujourd'hui, il faut beaucoup travailler pour affirmer chaque jour les choix de la démocratie au niveau national, les choix de la construction d'une démocratie au niveau européen, et travailler parce que rien n'est acquis, mais on doit s'y employer chaque jour pour aller de l'avant.
Maël de Calan.
Et est-ce qu'on ne retombe pas, pardonnez-moi, est-ce qu'on ne retombe pas un peu dans le même travers quand, comme vous le faites dans votre livre, on oppose, par exemple, la politique et la comptabilité. Vous parlez de l'austérité en Europe, plutôt pour la critiquer, tout en disant qu'elle est probablement nécessaire, qu'il y a eu des excès. Et vous opposez comme ça un peu le rêve européen, cette aventure qui doit continuer, la nécessité d'aller de l'avant parce que finalement, puis vous prenez des exemples très précis, la question migratoire, d'autres questions. Donc, est-ce que quand on oppose, comme vous le faites en quelque sorte, le rêve des sages, comme disait le général de Gaulle, et la manière un peu concrète, un peu comptable, un peu précise qu'ont les Allemands, par exemple, d'appliquer en quelque sorte cette solidarité européenne, est-ce qu'on ne retombe pas dans le même travers, c'est-à-dire certaines manières d'idéaliser l'Europe qui, ces dernières années, a été destructrice pour l'Europe, puisqu'on célébrait le rêve européen tout en laissant des pays dériver complètement. Est-ce que l'Europe ne doit pas être en quelque sorte très sérieuse, est-ce qu'elle ne doit pas être comptable avant de pouvoir développer un projet politique en quelque sorte?
Sandro Gozzi.
Non, là je ne suis pas d'accord. Je crois que exactement la raison pour laquelle aujourd'hui il y a tellement de crises en Europe, c'est le fait que l'Europe, dans la décennie que moi j'appelle la décennie perdue, s'est enfoncée dans une spirale entre technocratie et populisme, dans un cercle vicieux entre technocratie et populisme, et que s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est développer la primauté du politique, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et la priorité du politique au niveau européen, ça veut dire développer une politique qui dépasse les frontières nationales, une politique transnationale. Et il faut être politique. Si dans tous les pays dans lesquels les recettes d'austérité ont été appliquées avec zèle, avec soin, même les bons élèves irlandais, tous les gouvernements ont été balayés par les citoyens, ça veut dire que peut-être il n'y a pas vraiment une véritable satisfaction. Pas en Allemagne, mais en Allemagne aussi, il commence à avoir pas mal de problèmes d'un certain type d'approche à la question européenne.
François Arnaud.
Mais votre conversation, me semble-t-il, est typique du débat qu'on vient d'avoir après à propos de la politique française. Quand vous évoquez la génération Erasmus, vous évoquez la génération qui est aux commandes. Le phénomène intéressant qui s'est produit en Europe à travers cette génération Erasmus, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des gens qui sont aux commandes, mais c'est des gens qui vivent une société européenne, se sentent aussi bien à Turin, Berlin,
tout à fait,
n'importe où ailleurs. L'imprégnation européenne est profonde chez les citoyens en Europe. Aujourd'hui, l'Europe est une réalité vécue, banale, pour des millions d'Européens. Donc la question ne se pose pas simplement de la gouvernance européenne, l'opposition entre gestion, etc., ou politique. La question se pose, comme pour la politique française, comment en Europe faire de ces citoyens qui ont une expérience sensible de l'Europe, les acteurs de la conduite du changement en Europe.
Maëlle de Calan.
Vous dites les citoyens européens, mais Sangodi le rappelle dans son livre, 3 millions de citoyens européens sur 500 millions, c'est-à-dire c'est une certaine élite qui a eu la chance de voyager, j'en fais partie, vous en faites partie aussi.
Il n'y a pas besoin d'être passé par Erasmus pour faire
voyager.
L'expérience sensible de l'ouverture des frontières. Moi, je suis d'une génération née sur une frontière pour laquelle le tabou de la frontière chez le voisin européen était réel. Aujourd'hui, on circule. C'est l'apport décisif des générations précédentes.
Sandro Gaudi, une bonne proposition, c'est Erasmus pour tous. Donc, et rendre obligatoire, avec des bourses qui sont adéquates, l'expérience Erasmus pour tous les étudiants de l'université, ça serait la première chose. Et la deuxième chose, demander aux étudiants Erasmus de rendre à l'Europe ce que l'Europe leur a donné. Donc, dès qu'ils rentrent dans leur pays après l'expérience Erasmus, qu'ils deviennent un peu des ambassadeurs et témoins de la citoyenneté européenne, dans leur commune, dans les territoires, dans leurs écoles, dans l'université. Sans doute, il faut... Le paradoxe de l'Europe, c'est que s'il y a une histoire de succès, c'est Erasmus. On a augmenté les fonds, mais encore, ça concerne un nombre trop petit. Et donc, il faut augmenter les fonds et augmenter les opportunités pour tout le monde.
Maëlle de Calan.
Plus généralement, toute cette conversation, puisque le thème de cette journée, c'est comment est-ce qu'on redonne envie dans la politique. Est-ce qu'on peut redonner envie au peuple au travers du rêve, au travers des grands projets, ou au travers du sérieux, au travers de l'action concrète, de la politique qui donne des résultats? Naturellement, on va répondre les deux, c'est un rêve qui est étayé, qui est crédibilisé par des résultats, mais dans le cadre français, je pense que c'est moins au travers de grands projets politiques qui font rêver les gens, mais au travers du retour à une politique sérieuse, une politique à l'ancienne, si tant est qu'elle ait jamais existé, c'est moins au travers d'une manière très moderne d'écouter la société civile qu'au travers de gens pour qui l'éthique a un sens, la parole politique a un sens, les décisions emportent des effets. C'est une politique un peu à l'ancienne, en quelque sorte.
Sandro Gaudi.
Il faut les deux. Il faut des nouvelles idées, il faut du courage, il faut sortir la politique des mentalités strictement nationales. Toutes les activités de l'homme et de la nature ont dépassé les frontières. La politique continue de raisonner seulement dans des boîtes nationales. Et il faut aussi de nouvelles méthodes.
Allez, honneur à notre invité européen aujourd'hui. C'est vous, Sandro Gaudi, qui avez choisi la musique pour terminer. Vous avez choisi un extrait du dernier album de Radiohead qui vient de sortir, parce que vous aimez pas mal le rock, je crois.
Oui, j'aime beaucoup le rock et je suis un ancien DJ, mais pas avec un grand succès, mais beaucoup de passion.
Burn the Witch. Merci beaucoup, Sandro Gaudi, d'être venu au micro de la Grande Table aujourd'hui. Je rappelle le titre de ce livre, Génération Erasmus, ils sont déjà au pouvoir, vous donc, aux éditions Plon.
Merci
beaucoup à vous, Maëlle de Calan, d'être venu également. Je rappelle le titre de ce livre consacré à la vérité sur le programme du Front National chez le même éditeur Plon. Merci François Nernemann. Je renvoie à votre journal, le journal La Croix, et à cette vaste enquête que vous
pendant
avez réalisée
pendant trois semaines
exactement sur cette ce désir de politique aujourd'hui des Français. Et je remercie toute l'équipe de la Grande Table, Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Lucie Aubourg et Maïwenn Guizhou. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie-Laure Ciboulet. À la technique, Myriam Guillot.